Merci à vous, on vous retrouve la semaine prochaine et tout de suite on retrouve Vincent Nicole pour l'émission Quelle Histoire. Bonsoir Vincent.
Bonsoir David.
Et bien ce soir, direction ?
Direction le château royal de Blois.
Alors en route. Quelle histoire ! Lieu historique, personnages et légendes en Touraine. Conté par Vincent Nicole.
Bonjour à tous et bienvenue dans Quelle Histoire ? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vincent, je suis passionné d'histoire et guide conférencier depuis 9 ans dans le Val-de-Loire. Depuis le mois de mars, je vous propose cette nouvelle chronique sur Radioactive, où je vous parle de lieux historiques, personnages, événements et légendes en Touraine. Aujourd'hui, je vous parle d'un événement historique un peu spécial qui s'est produit dans l'un de nos châteaux de la Loire. On remonte le temps quelques instants, 433 ans en arrière. Direction le château royal de Blois, le 23 décembre 1588. Je vous parle aujourd'hui d'une des plus grandes conspirations du XVIe siècle, l'assassinat du duc de Guise par le roi de France, Henri III. L'événement que je vais vous raconter se passe à la fin du XVIe siècle. Mais avant ça, un petit rappel de ce qu'est la France à cette époque. On connaît le XVIe siècle pour être le siècle de la Renaissance, les grandes découvertes, la modernité, le renouveau artistique et culturel venu d'Italie et qui s'étend dans toute l'Europe. Mais ce siècle rayonnant est aussi un siècle de tourments religieux. Pendant la deuxième moitié du XVIe siècle, le royaume de France est touché par les guerres de religion. Véritable guerre civile qui oppose les catholiques aux huguenots, surnom donné aux protestants. L'un des épisodes les plus noirs et marquants de ces guerres est certainement le massacre de la Saint-Barthélemy, où le 24 août 1572, les pro-catholiques de Paris ont massacré des milliers de protestants. C'est dans ce contexte que la célèbre Catherine de Médicis est la reine régente du royaume suite à la mort de son mari, le roi Henri II. Elle devient aussi la plus proche conseillère de ses fils. Car oui, Catherine de Médicis a beaucoup d'enfants, 4 fils, et 3 d'entre eux seront tour à tour rois de France. Le premier des fils est roi à 15 ans, c'est le jeune François II, mais il meurt à seulement 16 ans, suite à une otite chronique mal soignée. Le deuxième fils de Catherine règne plus longtemps. Le roi Charles IX règne pendant 13 ans sur un royaume en guerre, et meurt de la tuberculose à l'aube de ses 24 ans, sans héritier mâle. Et c'est là qu'intervient l'un de nos personnages principaux. Le roi Henri III. Qui est ce personnage ? C'est donc le troisième fils de Catherine de Médicis à devenir roi de France à 22 ans. Petite parenthèse, avant d'être le roi de France, maman Catherine pousse le jeune Henri à postuler à la place vacante sur le trône de Pologne. Il se porte donc candidat et est élu roi de Pologne en 1573 sous le nom d'Henryk Waledzy. Il a un pouvoir très limité et a plus l'impression d'être sacrifié en étant envoyé loin de la France. En apprenant la mort de son frère Charles IX par une lettre, il décide de s'enfuir de Pologne accompagné d'une poignée de cavaliers. De retour en France, il devient le monarque Henri III. À quoi ressemble-t-il ? Disons que c'est un beau garçon, grand, mince, mais à la santé fragile. C'est un homme de cour qui instaure l'étiquette et ses codes, prémices du roi Soleil. Il a aussi pour habitude de se promener avec ses petits chiens. Oui, Henri III est un roi intellectuel, mystique, raffiné, qui aime beaucoup plus la mode que la chasse. Il porte des boucles d'oreilles, se pare de bijoux, porte aussi des fraises autour du cou, mais c'est la mode italienne de ses contemporains. Côté privé, il a eu un premier amour passionné, mais la belle meurt hélas à 21 ans, alors qu'il se trouve en Pologne. Son deuxième amour est sa reine, Louise de Lorraine. auquel il voue un amour véritable, chose rare dans l'histoire de France. Henri s'entoure également de plusieurs hommes qu'on appelle les mignons. Ces fameux mignons sont des compagnons de jeunesse du roi, nobles du même âge, guerriers mais aussi sophistiqués. Ils ont l'image d'amants coquets qui s'adonnent à la débauche et au plaisir, mais en réalité, les mignons sont plus de véritables protecteurs, politiques et fines lames, dévoués corps et âme à leur maître Henri III. Bref, on est d'accord, ils ne cadrent pas tout à fait avec l'image qu'on a d'un roi. Il utilise les fêtes comme moyen de gouverner. Or, son pays est à feu et à sang, et malheureusement, le faste ne peut rien contre le fanatisme. Dans ce royaume déchiré par les conflits religieux, une famille s'impose, les Guises. Les Guises sont vus comme intraitables contre les protestants. Avec leur ligue catholique, ils deviennent même un emblème parmi les Français. Le roi est donc critiqué de plus en plus violemment et la ligue catholique souhaite clairement le faire destituer. Henri III n'a qu'une solution pour stopper tout ça, se débarrasser de ses rivaux, et il va établir une vraie stratégie pour y arriver. Pour faire face à la crise due aux guerres de religion, Henri III convoque en octobre 1588 au château royal de Blois les États généraux, sorte de grande assemblée de 500 membres réunissant la noblesse, le clergé et le tiers-état. Pourquoi pas à Paris? Car Paris appartient aux Guises et à la Ligue catholique. L'homme fort de cette fratrie des Guises, opposé au roi, est Henri Ier, duc de Guise, nommé lieutenant général du royaume par le roi en personne. C'est un guerrier de 2 mètres de haut, surnommé le Balafré, à cause d'une vilaine cicatrice au visage. Ce cousin d'Henri III devient le symbole de la lutte contre les protestants, on le surnomme même le roi de Paris. En cette fin d'année 1588, le duc de Guise se rend également à Blois, où le roi prépare en secret son assassinat. Le prétexte idéal pour faire venir le duc de Guise seul auprès du roi est une convocation au conseil. La veille de ce 23 décembre, Henri III fait preuve de bienveillance envers son cousin. Il est aimable et courtois avec sa future victime. Le soir venu, le roi demande au duc « Mon cousin, nous avons beaucoup d'affaires sur les bras. Venez demain matin, de bonne heure, au conseil, nous nous en occuperons. Je vais m'absenter dans ma maison de campagne. » Pour que le plan soit parfait, on modifie le plan d'accès aux salles du château en condamnant la salle du conseil, obligeant le duc à passer par la chambre du roi. On met également en place un dispositif de sécurité pour empêcher le duc de recevoir l'aide de ses gardes. Afin de rendre vraisemblable le départ du roi en sa maison de campagne, on fait en sorte que les carrosses du roi soient dans la cour du château tôt le matin. Le plan machiavélique du roi est fin prêt. Matin du 23 décembre 1588. Il est 6h30, 7h du matin. Le temps est humide, le ciel est bas, il fait froid, il pleut. La maîtresse du duc de Guise avec qui il a passé la nuit a un mauvais pressentiment et le supplie de ne pas aller voir le roi. Le duc a déjà été prévenu la veille au soir lors d'un banquet au château où on lui conseille de se méfier du roi. Pourquoi y va-t-il alors? Il n'y croit pas. Pour le duc, son cousin le roi est un poltron. Son argument est qu'il n'osera pas. Il arrive dans l'enceinte du château de Blois, rencontre des gardes à l'entrée. On le fait attendre dans la salle des gardes. Il patiente. On lui dit que le roi l'attend dans son cabinet. Le duc monte enfin au deuxième étage du château, traverse un couloir étroit où il croise deux des 45, la garde personnelle du roi. Pendant que Guise accède à la chambre du roi, Henri III se cache derrière l'une des tapisseries pour assister au drame qu'il a orchestré. Quand enfin le duc de Guise arrive dans la chambre du roi, il reconnaît certains des gardes, se dirige vers l'entrée du cabinet où il est stoppé par 3 autres gardes. Il se retourne et 8 autres se jettent sur lui et le lardent de coups de couteau et d'épée. Au total, c'est une 12aine d'hommes qu'il a face à lui. Le duc est grand, fort, 2m03, il se débat, il lutte pendant que les poignards l'atteignent au ventre, à la gorge, aux reins, au visage. Au bout de 2 ou 3 minutes, le duc s'effondre. Étouffé par le sang, il s'écroule au pied du lit du roi. C'est à ce moment qu'Henri III s'avance près du corps qui se raidit et s'écrie. Mon Dieu qu'il est grand, il paraît encore plus grand mort que vivant. Le frère du duc, le cardinal de Guise Louis de Lorraine, est fait prisonnier le jour même. Il sera tué le lendemain et on raconte que le roi ordonne qu'on découpe et brûle les corps du duc et du cardinal dans l'une des cheminées du château pour éviter tout lieu de recueillement. Mais alors, quelles sont les conséquences d'un tel crime pour le roi ? Ses rivaux sont éliminés, c'est vrai, en partie. Car avec cet acte, Henri III signe son propre arrêt de mort. Pour les Parisiens, Henri III n'est désormais plus le roi de France, mais le tyran Henri de Valois. Croyant mettre fin à la guerre civile en tuant les chefs de la Ligue, Henri III déclenche au contraire un déchaînement de haine contre lui. Jamais un roi n'avait subi un tel déferlement de haine et de violence. Jugé comme parjure, sacrilège, paillard, bougre, Judas, sodomite et j'en passe. Dans Paris et d'autres villes, on multiplie les cérémonies religieuses, les processions, les jeûnes collectifs, et on lance des appels au meurtre contre un roi satanique. On brûle les portraits du roi, on détruit ses symboles dans la capitale, et on confectionne même des effigies en cire à son image qu'on pique d'aiguilles en prononçant des formules magiques. Henri III souhaite reprendre le contrôle de son royaume et de Paris, protégé par le duc de Mayenne, frère du duc de Guise. Mais le roi est trop faible et décide alors de s'allier à son ancien ennemi, Henri de Navarre, le futur Henri IV. Les 30 000 hommes des troupes du roi et du huguenot Henri de Navarre avancent aux portes de Paris. Ils s'installent au château de Saint-Cloud. Henri III reprend enfin espoir. Nous sommes le matin du 1er août 1589, à la veille d'un assaut sur Paris. Le roi est sur sa chaise percée, quand un moine nommé Jacques Clément souhaite lui confier une lettre du président du Parlement. Le moine lui remet la lettre, et suite à la lecture, Henri se lève, le moine s'approche du roi et le poignarde au niveau du bas-ventre. La blessure n'est pas mortelle, mais la médecine n'étant pas encore bien rodée à cette époque, ses médecins ne trouvent rien de mieux que de lui prescrire un lavement, ce qui va finir par le tuer définitivement. Il trouve la force avant cela d'écrire une dernière lettre à sa reine Louise, qui est à Chenonceau. Convoque Henri de Navarre et fait prêter serment à ses fidèles de reconnaître Henri de Navarre comme étant leur futur roi. Henri III meurt quelques heures plus tard à 38 ans, mettant fin à la dynastie des Valois. Sans le sacrifice de ce roi, la France n'aurait pas connu l'œuvre réconciliante d'Henri de Navarre, futur Henri IV, premier roi de la maison des Bourbons. Mais ceci est une autre histoire. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'en savoir plus sur cette histoire et que vous oserez vous aventurer dans les couloirs du château royal de Blois. Je vous remercie à toutes et à tous de m'avoir suivi. Sachez que vous pouvez réécouter cette chronique en podcast sur le site de Radioactive, sur le www.radioactivefm.fr. Encore merci et à bientôt !